Quand je réfléchis personnellement à la question du mal et à la façon avec laquelle j'y ai été confronté à plusieurs moments de mon existence, c'est toujours ça qui me revient en tête, cette histoire-là. Au lycée, j'avais une amie qui s'appelait Adeline. On était des bons amis. On ne s'est jamais trop perdu de vue. Et à 23 ans, alors que j'étais à l'autre bout du monde, j'étais en Australie, on s'appelait régulièrement avec mes parents. Et un jour, au téléphone, ils m'ont annoncé qu'elle était morte, qu'elle venait de mourir. Accident de saut à l'élastique. Elle sautait en couple avec un autre ami de lycée qui s'appelle Alexandre. Elle est morte sur le coup. Et lui, il est paralysé. Il a les jambes paralysées. Il est sur un fauteuil roulant aujourd'hui. Pour moi, si je dois résumer la question du mal, c'est ce choc-là dans mon existence. Apprendre cet accident de saut à l'élastique. Si Dieu existe, où était-il? Où était-il Dieu à ce moment-là? Alors c'est vrai que si je vous livre ici une expérience qui est très personnelle, et des expériences, on en a tous de ce tonneau-là. La souffrance, la maladie, l'injustice. Et puis dans le monde, il y a tant de choses difficiles à comprendre. Les guerres, les catastrophes naturelles, la famine. Où est-il Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il permet à ces choses-là d'arriver? Alors, risque de vous surprendre, eh bien, c'est une question qui est posée à de multiples reprises dans la Bible, notamment par les auteurs des psaumes et par des prophètes comme Jérémie, Élie, Habacuc, Job. Ils se posent cette question-là. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Je vous en donne juste quelques exemples de formulations qu'ils ont utilisées. Jérémie. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Job. Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie? Pourquoi vieillissent-ils en reprenant des forces? Vous voyez, finalement, même les prophètes de Dieu se la sont posés, la question. En fait, depuis que l'humanité existe, les hommes et les femmes se la posent, cette question-là. Et tout au long de l'histoire, il y a eu quatre hypothèses. Quatre hypothèses pour essayer de répondre, de résoudre cette question. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Alors ces quatre hypothèses, ces quatre possibilités, je ne sais pas, vous les avez peut-être relevées lors du débat qui a eu lieu entre Jennifer et Patrick Fiori tout à l'heure. Alors, je vous propose qu'on les résume. On va essayer de les résumer dans un schéma, ces quatre hypothèses. On va commencer avec la première. Peut-être que le mal n'est pas si mal que ça. C'est une hypothèse qui a été émise pour essayer de résoudre toutes les tensions. Peut-être que le mal, au final, n'est pas si mal. On tente de le relativiser, le mal, de lui donner un sens, de lui donner une utilité, de lui donner une place dans la création même. Quelques exemples. Pour certains philosophes, le mal serait nécessaire. Le mal, il permettrait l'avancée de l'humanité vers un plus grand bien. Le mal existerait pour eux en vue d'un plus grand bien, de cette recherche d'un plus grand bien. Il permettrait la marche en avant du monde. C'est ce que disent certains. Pour d'autres philosophies, dont une qui est très connue, le stoïcisme, pour le stoïcisme, toutes les choses ont une place dans le monde, dans l'univers. Et le mal a donc une place aussi. Le mal contribuerait à l'harmonie universelle. Une sorte d'équilibre grâce au mal. C'est un peu comme dans les spiritualités orientales, vous savez, l'équilibre entre le yin et le yang. On peut essayer aussi de trouver une utilité au mal. Je vous donne juste un exemple. Que j'ai remarqué ça à plusieurs reprises dans les obsèques. Dans les obsèques, quand quelqu'un décède d'un cancer, par exemple, il est assez souvent le cas d'effectuer une collecte au bénéfice d'une fondation pour la lutte contre le cancer, par exemple. Alors, je ne dis pas que c'est mal. Au contraire, c'est très bien de faire quelque chose comme ça. Mais au final, est-ce qu'on n'essaye pas de rendre la mort utile? Essayer de trouver un sens à la mort au-delà de la mort, en faisant ça. Trouver une utilité et un sens à la mort. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu coincé aux entournures. Parce que à une famille qui perd un enfant en bas âge, par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez lui dire que, finalement, cette mort-là, c'est pas si mal parce qu'il y a du bien ou quelque chose qui va en sortir? C'est inadmissible de pouvoir dire ça. Impossible de pouvoir dire ça. La Bible nous encourage toujours à avoir le mal en horreur. Alors c'est vrai que dans certains cas, Dieu peut faire sortir du bien depuis le mal. Dans certains cas, comme par exemple l'épreuve peut faire grandir le croyant, dans certains cas. Mais à aucun moment la Bible ne justifie le mal, à aucun moment. Les prophètes se sont toujours insurgés contre le mal. Les prophètes ont toujours lutté contre les injustices. Et puis, si le mal n'était pas si mal au final, pourquoi est-ce que Jésus serait venu sur terre pour justement résoudre ce problème du mal? Preuve qu'aux yeux, le mal est mal. Donc cette première hypothèse ne correspond pas à ce que la Bible nous enseigne. Deuxième tentative pour expliquer le mal. Peut-être que Dieu n'est pas tout-puissant pour résoudre la question du mal. Dieu est-il tout-puissant? Peut-être que Dieu est un peu dépassé, limité par tout ce qui se passe. Il est peut-être dépassé, tout simplement. Ça a été avancé, ça, comme possibilité. Ou alors, peut-être qu'il serait tout-puissant, mais qu'il ferait exprès de s'auto-limiter pour laisser les hommes agir. Finalement, ça reviendrait à dire que Dieu se limite pour laisser la liberté humaine faire ce qu'ils veulent. Il s'auto-limite, en général, pour la liberté. Un peu comme si le mal était le fruit malheureux de la liberté humaine. Alors, il faut reconnaître à cette présentation des choses une grande part de vérité. Il y a de nombreux penseurs chrétiens qui pensent ça, que Dieu est tout-puissant, mais qu'il s'est auto-limité pour laisser la liberté humaine. Par exemple, si vous connaissez le fameux penseur chrétien C.S. Lewis, avec ses chroniques de Narnia, lui, il pense ça, que Dieu s'est limité pour laisser l'homme libre. Cette hypothèse, elle a le mérite de souligner la responsabilité des hommes dans le monde. Parce que, au final, c'est bien l'homme et la femme qui ont fait entrer le mal dans la création en faisant un mauvais usage de leur liberté. Donc il y a une part de vrai par rapport à cette question de liberté. Vous avez remarqué que quand on accuse quelqu'un, on le pointe du doigt. Si on accuse Dieu du mal, remarquez que quand je pointe mon doigt vers Dieu, il y en a trois autres qui me regardent. Il est facile d'accuser Dieu du mal quand c'est les hommes qui le commettent. On a trop tendance, en fait, à reprocher à Dieu ce que les hommes font. Donc, c'est vrai qu'on pourrait tenter de dire que le mal est le fruit malheureux de la liberté humaine. Mais il faut reconnaître là aussi que la Bible ne va jamais, jamais dans ce sens-là. La Bible présente un Dieu qui est tout-puissant et dont la toute-puissance ne s'arrête pas à la liberté humaine. La toute-puissance de Dieu n'est pas dépassée par le mal, elle n'est pas dépassée non plus par la liberté des hommes. Et c'est vrai qu'en même temps, la Bible présente les hommes et les femmes comme responsables du mal qu'ils font. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, la Bible ne s'inscrit pas dans ces trois possibilités-là. Troisième tentative pour expliquer le mal. Peut-être que Dieu n'est pas vraiment bon. Si vous connaissez Voltaire, il nous a proposé une image de Dieu, le grand horloger. Le grand horloger qui a fabriqué la création et après qui l'a laissé se débrouiller tout seul. Il regarde de haut ces créatures se débattre dans la vie pour essayer de surnager tant bien que mal. Ça serait un Dieu impassible, un Dieu lointain, voire même pour certains un Dieu sadique qui rigolerait bien en regardant ces créatures se débattre. Là encore, la Bible ne nous laisse pas cette possibilité-là. La Bible ne franchit jamais ce pas-là. La Bible présente toujours l'image d'un Dieu qui compatit avec la souffrance des êtres humains. Un Dieu qui compatit avec la misère humaine, avec la mort et avec le mal. un Dieu qui est proche de ses créatures. Proche, tellement proche que un Dieu qui s'implique au plus haut point sur terre, contre le mal. On va le voir tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, il nous faut aborder une dernière option, une dernière possibilité. Pour certains, puisque le mal existe, alors ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est la quatrième hypothèse qu'il nous faut affronter ce matin ensemble. Mais en fait, on a déjà commencé à le voir pendant le débat. C'est que si Dieu n'existe pas, eh bien si Dieu n'existe pas, notre expérience de vie face au mal est encore plus douloureuse. Parce que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Si Dieu n'existe pas, le bien et le mal sont des valeurs relatives d'une personne à une autre. Pourquoi est-ce qu'on serait honnête? Pourquoi est-ce qu'on dirait la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne tuerait pas quelqu'un? Plus aucun moyen de fonder une éthique si Dieu n'existe pas. Tout est permis dans ce cas-là. Et c'est encore pire qu'avant. Plus de limites. Ensuite, si Dieu n'existe pas, il faut accepter aussi les épreuves sans qu'on ait personne pour nous entendre lorsqu'on crie. On ne peut plus se plaindre parce qu'il n'y a pas de Dieu pour nous écouter s'il n'existe pas. Et donc là encore, notre situation finalement sans Dieu est pire qu'avant, face au mal. Plus de plaintes possibles. Et vous l'aurez compris, ben, si Dieu n'existe pas, on n'a plus aucun espoir. Parce que notre lutte contre le mal est vaine. On a perdu d'avance à lutter contre le mal. Plus d'espoir. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que sur Terre, eh bien, beaucoup de gens vivent sans aucun espoir dans leur lutte contre le mal. La Bible nous invite au contraire à croire que Dieu existe. Ça va être notre hypothèse maintenant. La Bible nous encourage à croire que Dieu existe. Et la Bible nous encourage à croire qu'il y a justement de l'espérance grâce à ce Dieu. On va se pencher sur le témoignage d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Cet homme, il s'appelait Jean, et il affirme avoir vécu des choses extraordinaires avec un certain Jésus-Christ. Je vous invite à suivre la lecture que je vais faire dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Écoutez l'histoire que nous raconte Jean, où on va voir justement comment Jésus-Christ est Dieu devenu homme, venu régler la question du mal dans nos vies. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas » Jésus répondit, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et, l'ayant prise à part, elle lui dit : Le maître est là, et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent « Voyez comme il l'aimait !» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre !» dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors « Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Ce récit de la mort et de la résurrection de Lazare, il est riche d'enseignements pour nous ce matin par rapport à la question que l'on se pose. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand Marie dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En fait, c'est un reproche à peine voilé à Jésus. Si tu avais été là, il serait vivant. Si tu existes, pourquoi tu n'étais pas venu avant ? Pourquoi le mal ? Pourquoi as-tu permis ça ? C'est exactement la question qu'on se pose ce matin, à travers ce reproche de Marthe à Jésus. Et le témoignage de Jean au sujet de Jésus, il a le pouvoir ce matin de fortifier notre cœur. Il a le pouvoir de nous apporter la paix à laquelle nous aspirons par rapport à ses préoccupations. Dans ce récit, Jésus ne fait pas moins que de nous dévoiler la position de Dieu par rapport à la souffrance et à la mort humaine. Alors, quelle est la position de Dieu par rapport à la souffrance et à la mort humaine ? Eh bien, la première chose qu'il fait, Jésus, c'est qu'il fait un geste d'amour. Et ce geste d'amour, il le manifeste ainsi. Il va entourer ses amis. Jésus, il est informé de l'état de santé de son ami Lazare. Et il prend la route de Judée avec ses disciples. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors même que c'est dangereux pour lui de prendre la route de Judée, parce qu'il y a des gens qui voulaient sa mort sur cette route. Et qui potentiellement seront là pour l'attendre au tournant. Mais Jésus, il y va quand même. Il y va quand même. Il y va pour être avec les siens, pour les entourer. Il n'a pas du tout l'intention de laisser Marthe et Marie seules avec leurs souffrances. Alors tout à l'heure, on se demandait si Dieu était bon en bas à droite. Ben là, on en a une des multiples preuves. Dieu a permis la mort de Lazare, c'est vrai. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Mais Jésus n'abandonne pas les siens au cours de cette épreuve. Il va nous falloir vivre avec cette tension dans nos vies. La souffrance et la mort ne nous seront pas épargnés au cours de notre existence. Mais quoi qu'il y paraisse, Dieu est toujours avec nous. Il est là à nos côtés, exactement comme il est là aux côtés de Marthe et Marie. Il se tient là dans l'épreuve avec nous pour nous apporter réconfort et soutien. Alors oui, on a la preuve ici que Dieu est bon. Il accomplit en Jésus un geste d'amour. Il va entourer ses amis. Indice de la bonté de Dieu. Deuxième réponse ici. Deuxième réponse de Jésus à la souffrance et à la mort. C'est un signe de compassion. Il pleure. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. Quand Jésus arrive à Béthanie, c'est le drame. Marthe et Marie et les amis qui sont autour d'eux, tout le monde pleure. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette situation, elle arrache des sanglots à Jésus. Il pleure. Il pleure avec Marthe. Il pleure avec Marie. Il n'est pas insensible à notre souffrance. Il vit chaque étape douloureusement avec les siens. Alors tout à l'heure, on se demandait si le mal était réellement mal en haut. Le mal est-il réellement mal? Eh bien là aussi, la réaction de Jésus, elle ne nous laisse aucun doute. Verset 32. Jésus est indigné et ému face à la mort de son ami Lazare. Verset 28. Il est bouleversé par la souffrance de Marthe et Marie. Eh bien, notre Dieu, qui est devenu un homme, il a mêlé ses larmes avec les nôtres. Il partage notre tristesse. La mort lui répugne. Le mal est véritablement mal. Signe de compassion. Face à ce mal, Jésus pleure. Avec Jésus, on constate donc que Dieu est bon. Il entoure ses amis. On constate qu'il est sensible à la réalité du mal dans nos existences. Il pleure avec ses amis. Mais ce n'est pas tout. La troisième réponse de Jésus à la souffrance et à la mort, c'est quoi? Eh bien, on ne peut pas passer à côté de ça. Il accomplit un acte de toute puissance. Il ressuscite son ami Lazare. 4 jours déjà que Lazare est au tombeau, au point que Marthe lui dit, mais ouvre pas le tombeau, quoi. Le cadavre est déjà en train de se décomposer, il doit sentir mauvais. Jésus ne s'arrête pas là. Simple parole. Lazare sort de là. Et Lazare sort vivant. Tout à l'heure, on se demandait, troisième axe, si Dieu était véritablement puissant. Eh bien, là aussi, il n'y a aucun doute. Il a les moyens d'intervenir contre le mal sur terre. Jésus est ici tout puissant, au point que sa puissance s'étend jusqu'à la vie et à la mort. C'est la troisième réponse de Dieu à notre souffrance. Il accomplit un acte de toute puissance. Il rend la vie à son ami Lazare. Et la quatrième réponse de Dieu à notre souffrance et à la mort, c'est qu'il va nous laisser à tous, à nous tous. Il nous laisse une parole d'espérance. Il est la résurrection et la vie. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Contrairement aux apparences, eh bien, ce n'est pas la mort, mais la vie qui peut avoir le dernier mot. Mais pas pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour qui est la vie ici? Pour qui est la vie éternelle? Dans ce verset, elle est pour celui qui croit en Jésus. C'est un cadeau non mérité pour celui qui croit. Mais en fait, aucun d'entre nous ne mériterait normalement de recevoir ce cadeau. La Bible nous raconte que le mal est entré dans le monde par la faute des hommes et des femmes. On a voulu prendre la place de Dieu, on a voulu décider nous-mêmes de ce qui était bien et mal, et on a tous fait, dit, pensé du mal. Et donc on devrait être puni, d'après la Bible, pour tout cela. séparés de Dieu pour toujours. On n'est pas étranger au problème du mal, on n'est pas étranger à l'équation qu'est ce problème. Cette rébellion contre le Créateur, elle a entraîné beaucoup de dérèglements que l'on constate tous les jours. Elle a entraîné une relation brisée entre Dieu et les hommes. Elle a entraîné une relation brisée entre l'homme et ses semblables, ce qui explique les guerres, la violence entre les hommes. Elle a entraîné aussi une relation brisée entre l'homme et la nature. Il y a le problème des catastrophes naturelles, des maladies que nous connaissons tous. Mais Dieu, qui est finalement bon, tout-puissant et qui prend le mal au sérieux, eh bien, il a pourvu une solution. Il s'est impliqué au plus haut point, au point de devenir un homme, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et de mourir sur une croix à notre place pour nous sauver. Il a pris la culpabilité que nous devrions porter, il l'a pris sur lui pour qu'on puisse, nous, être pardonnés. Sa mort à Jésus, elle est en fait le juste châtiment que l'humanité mériterait de subir. Mais c'est Jésus qui l'a endossé à notre place. Et Jésus, qui était innocent, la mort n'a pas pu le garder. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et c'est de là que nous vient toute notre espérance. Espérance parce que Jésus se propose de partager cette vie éternelle avec nous. Une vie parfaite, une vie où le mal sera absent de façon définitive. Et pour obtenir cette vie nouvelle, il nous demande de croire en lui. Et croire en lui, ça nous oblige à vivre l'humilité, ça nous oblige à reconnaître qu'on fait partie du problème, que nous aussi, on fait le mal, ça nous oblige à nous en détourner pour demander pardon. Mais Jésus est formel. Si tu places ta confiance en lui, tu vivras même si tu meurs. Les moments que je redoute le plus dans le ministère pastoral, c'est les moments où je suis appelé au chevet d'un mourant. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et je voudrais témoigner auprès de vous que les mourants, ils ne se trompent pas à la veille de leur mort. Les mourants, ils n'ont que faire de savoir pourquoi le mal existe. La seule chose qui les préoccupe, c'est de savoir s'il y a une espérance pour eux, alors qu'ils vont y passer. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose pour eux, au-delà de cette barrière qu'ils vont bientôt subir. Et quand j'arrive, les mourants, ils ne me demandent pas en général de leur rappeler, je ne sais pas moi, combien d'amis Facebook ils ont, ou combien de zéros ont leur compte en banque. Les mourants, ce qu'ils me demandent, c'est de leur lire des paroles d'espérance qui nous viennent de la Bible, qui nous viennent de Dieu lui-même. Et je voudrais vous montrer, à travers ces quelques paroles d'espérance ce matin, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est tout-puissant, et à quel point il tient le mal pour mal. Alors, on va faire une petite expérience. Je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer allongé sur votre lit de mort. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre, mais ça arrivera un jour. Et autant s'y préparer dès maintenant. Je vous invite à cette expérience-là. Et je terminerai comme ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Je voudrais juste vous encourager à ne pas attendre d'être sur votre lit de mort pour aimer ce Dieu et pour vous engager auprès de ce Dieu qui nous offre cette si belle espérance. Il est bon, il est tout puissant et il a le mal en horreur. Et un jour, tout ça sera fini. Et celui qui croit en lui sera auprès de lui dans la joie éternelle.